Les protestations existent depuis longtemps. En 2005 a eu la plus grande. On a eu 75 blessés. À cette époque-là, il y a déjà eu des soulèvements. Il y a déjà eu des tentatives d'arranger ce conflit. L'entreprise avait fait une fois aussi preuve de bonne volonté, entre guillemets, en envoyant un des directeurs pour l'Amérique latine. Mais la pollution a toujours continué et on est malheureusement dans des gouvernements qui ne font pas cas aux protestations sociales et qui laissent qu'elles grandissent. À un moment, le conflit éclate et malgré la très bonne volonté de tous les maires de Espinard qui ont envoyé une lettre au Premier ministre en leur demandant de pouvoir en parler calmement, eh bien le maire a été arrêté et est maintenant en prison.
Justement, la police a été envoyée sur place pour, d'une certaine manière, mater la contestation. Deux morts, des dizaines de blessés. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement d'Oumala est du côté des groupes miniers, ça fait sens, ou c'est juste parce que l'État est très dépendant de ces exploitations minières?
La croissance péruvienne s'est basée depuis pas mal d'années, une dizaine, vingtaine d'années, sur les revenus de la mine, puisque l'or augmente de prix tous les jours, pratiquement, et sur l'exportation. Bon, le Pérou a toujours été un pays exportateur, soit de l'agriculture, soit sur la mine. Comme les revenus de la mine sont très élevés, ce qui a fait, par exemple, que pendant la crise de 2008, le Pérou continue à avoir une croissance positive. Mais cette croissance ne revient qu'à certains groupes sociaux et ce ne va pas à toute la population.
Donc l'État dépend bien de l'exploitation minière, mais est-ce qu'il y a collusion entre les politiques et les groupes miniers?
Oui. Par exemple, dans le conflit de Kong, les ministres se déplacent parfois avec les avions de la mine Yanacocha qui veut faire l'exploitation du projet Konga. Même le Premier ministre Valdez a des intérêts miniers dans la Southern Arequipa. Ils sont vraiment liés. Évidemment, M. Ollanta Humala avait pensé qu'avec les revenus de la mine, il allait pouvoir financer son programme d'inclusion sociale. Bon, en même temps, il veut mater la protestation et continuer la pollution. Ben, ce n'est pas possible, non?
Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui?
Nous, on réclame à Tierra Liberta que la loi des mines promulguée par le gouvernement Fujimori en 1992 soit révisée, parce qu'il a divisé le Pérou entier en lots et concessions pour exploitation minière et pétrolière, qu'il y ait des zones qui ne soient pas dédiées à la mine. Après, que l'économie du Pérou ne soit pas basée sur la mine, qu'on reconnaisse la richesse qu'on a en biodiversité, donner plus de place au tourisme, parce qu'on est un pays avec des milliers de centres archéologiques. Aussi, on devrait réclamer aux entreprises étrangères qu'elles respectent au Pérou la même chose qu'elles sont obligées à respecter dans leur propre pays, puisque par exemple, on sait qu'aux États-Unis, l'exploitation minière à ciel ouvert dans les bassins hydrographiques est interdite.
Donc plus de règles et un meilleur contrôle, c'est pour le long terme, mais dans l'immédiat, comment faire pour mettre fin au conflit social?
On ne peut pas prétendre toujours d'arrêter les conflits en faisant appel à l'état d'urgence. Il est très important d'avoir une médiation à nouveau qui puisse arrêter le conflit de façon urgente et immédiate pour pas qu'il y ait de plus de blessés, de personnes arrêtées et de morts. L'Église pourrait jouer un rôle, la jouer très souvent un rôle positif. Elle n'est pas ni pour l'un ni pour l'autre, mais elle est au milieu et elle constate. Donc elle peut jouer un rôle très important pour pacifier maintenant l'ambiance qui est vraiment très négative.